RFI, 7h30 à Paris et Niamey, 6h30 à Dakar. Édouard Dupénoit est avec nous pour le journal.
Et l'actualité africaine qui s'ouvre auprès d'une attente anxieuse et matinée de colère. Nous sommes à la frontière sénégalo-mauritanienne avec ces migrants refoulés, parfois raflés à domicile, disent-ils. Certains sans leur famille, restés en Mauritanie. Ils nous racontent le flou et le désarroi. L'OIF regrette mais respecte la décision du Niger. Niamey se retire de l'organisation de la francophonie, annonce hier du ministère des Affaires étrangères de transition. Le Burkina Faso fait la même chose d'ailleurs. Dans la région de Tombouctou, au Mali, une frappe de l'armée tue au bas mot une dizaine de personnes. Terroristes, disent les FAMA. Plusieurs autres sources locales parlent de commerçants ou d'éleveurs.
La colère de Kigali qui coupe les ponts avec la Belgique.
Une rupture des relations diplomatiques annoncée par le Rwanda. Le pays reproche à la Belgique d'être l'instigatrice des nouvelles sanctions économiques européennes. Et puis une liste électorale provisoire en Côte d'Ivoire. Elle peut maintenant faire l'objet de contestations et de recours.
À l'ombre d'une plaque de tôle, la longue attente des migrants refoulés de Rosso.
Nous sommes donc le long du fleuve Sénégal, sur les berges du fleuve qui fait la frontière avec la Mauritanie. C'est là que sont refoulés celles et ceux qui ont été arrêtés de l'autre côté de cette frontière, en situation irrégulière ou parfois en situation incertaine, dénoncent certaines ONG. Depuis plusieurs jours, elles s'indignent des conditions de refoulement et de traitement de ces candidats à l'exil. Léa Lisa Vesterov, correspondante permanente de RFI à Dakar, s'est donc rendue sur place pour recueillir les témoignages.
Sous un soleil de plomb, ils sont une dizaine à l'ombre d'un toit de tôle tout près de l'embarcadère vers la Mauritanie. Tous guinéens et refoulés, comme Diallo débarqué dimanche à Rosso, arrêté à Nouakchott alors qu'il était allé acheter à manger.
Il te dit, tu es étranger, non ? Tu dis oui, on te prend. Deux jours, on est enfermé là-bas. Si tu n'as pas argent pour rester à manger là, wallah, tu vas mourir dans la salle là.
Camara, vêtue d'un grand voile mauritanien, elle aussi était expulsée malgré sa grossesse et sa fille de 2 ans.
Et il m'a attrapé de ça à la maison. J'étais couchée. Donc il vient, il con. Quand tu ouvres la porte, il te prend, il te melote, tu pars à prison. Moi, je fais une semaine à prison. Il n'y a pas à manger. Il frappe les garçons.
Tout son argent gardé par la police, dit-elle. Voilà près d'un mois que la jeune femme a trouvé refuge dans cette cour devant une maison où elle campe chaque soir avec une dizaine d'expulsés. Tous disent avoir été maltraités. Sila, qui travaillait comme coiffeur depuis 1 an, dénonce une politique injuste.
Pourquoi vous nous traitez comme ça? Le Guinéen n'a rien fait de mal en Mauritanie. S'il s'agit de trouver des cadres de séjour, on vous donne une semaine ou un mois. Mais aujourd'hui, je vous jure, quand vous partez demander, même si j'en ai, on ne me donne pas. Sinon, moi, j'ai fait plus d'1 mois, je suis en train de courir derrière eux quand j'ai perdu ma carte de séjour. Ils refusent catégoriquement.
Avec sa femme et son fils encore en Mauritanie, Sila ne peut pas rentrer en Guinée et espère pouvoir retourner à Nouakchott les chercher, sans succès pour le moment. Léa Lisa Vesterov, Rosso, RFI.
Le Niger annonce qu'il se retire de l'Organisation internationale de la francophonie. Ce sont les autorités de transition de Niamey qui le font savoir dans une lettre signée du ministère des Affaires étrangères. Décision souveraine, dit aussi ce document. Et que regrette Auria van de Wege? Elle est porte-parole du secrétaire général de cette OIF. Elle s'en expliquait hier soir à Paul Lorgery.
C'est jamais une bonne nouvelle d'apprendre qu'un État souhaite quitter. Après, nous, en tant qu'institution, on respecte les décisions souveraine des États. Bien entendu, on regrette l'impact que ça pourrait avoir sur les projets en cours de l'OIF dans ces pays-là. Et on est quand même conscient aussi d'être un peu un dommage collatéral, si je puis m'exprimer ainsi, d'une situation géopolitique qui nous dépasse en fait. La volonté de la secrétaire générale, et elle s'exprimera devant les États dès qu'elle en aura l'occasion, ce sera de solliciter l'avis des États pour voir dans quelle mesure l'OIF peut rester engagé auprès des populations de ces pays-là. On a des projets en cours. Le retrait du pays, du Niger, des instances de la francophonie, est-ce que ça doit nécessairement pénaliser les populations auxquelles nous sommes attachés? L'organisation de la francophonie, bien entendu, c'est une organisation interétatique, mais elle tient à cœur les communautés francophones, y compris dans les pays non membres. Donc il n'y a pas de raison que ça cesse pour le Niger.
Un peu après que nous avons joint Auria van de Wege, l'OIF a aussi annoncé que le Burkina Faso avait pris cette même décision de retrait. Pas d'annonce en revanche du côté du Mali. Troisième membre de cette AES, Alliance des États du Sahel, le Niger, qui est aussi l'objet par ailleurs d'un rapport très critique de la part d'Amnesty International. L'ONG estime que de nombreux droits humains sont bafoués depuis le putsch, le coup d'État de juillet 2023, musellement des voix critiques, non-respect de plusieurs décisions de justice, atteinte aux libertés fondamentales, à la liberté de la presse. Conclusion très nette, Magali Lagrange, de la part de l'ONG.
Les droits humains sont piétinés, selon Amnesty International, qui évoque des détentions arbitraires et certaines décisions de justice non respectées. Parmi les cas cités, le président renversé et plusieurs proches, Mohamed Bazoum, détenu avec son épouse à la résidence présidentielle depuis le coup d'État. Plusieurs de ses ministres en détention pour des motifs politiques, précise Amnesty. La décision de remise en liberté provisoire de 4 d'entre eux n'a jamais été appliquée. Les violations de la liberté d'expression sont incessantes. L'autocensure semble être devenue la norme, poursuit l'organisation. Des médias internationaux suspendus, tout comme la maison de la presse à Niamey. Dans le viseur également, la société civile. Amnesty cite le cas du secrétaire général d'Alternative Espace Citoyen, Moussa Tchangari, arrêté en décembre, accusé notamment d'atteinte à la défense nationale. Le rapport s'inquiète également de la participation croissante de la DGDSE, les renseignements extérieurs au placement en détention et aux interrogatoires, ainsi que de la création d'un fichier des personnes impliquées dans des actes de terrorisme ou des infractions qui portent atteinte aux intérêts de la nation, un texte au contour flou qui englobe une longue liste d'infractions.
Magali Lagrange, l'actualité encore dans le Sahel, c'est cette frappe aérienne attribuée à l'armée malienne qui a fait une dizaine de morts au moins avant-hier dans la région de Tombouctou. Plus précisément à Edjeir, près de l'Erneb, toutes les sources locales que RFI a pu joindre évoquent au moins ce bilan d'une dizaine de morts, mais certaines parlent même du double. En indiquant aussi que les victimes, David Baché, sont des commerçants ou des éleveurs.
Les rebelles indépendantistes du FLA, mais aussi les sources locales civiles jointes par RFI, pour certaines pro-États maliens, et le collectif pour la défense des droits du peuple de l'Azawad, qui recense les atteintes aux droits humains dans le nord du Mali, tous l'assurent. Les victimes de la frappe aérienne sont essentiellement des commerçants et des éleveurs, venus à la foire d'Ejdeir et qui s'apprêtaient à repartir. Plusieurs sources humanitaires indiquent que des blessés ont été accueillis de l'autre côté de la frontière, en Mauritanie, pour y recevoir des soins. Plusieurs sources locales rappellent cependant que la zone de l'Erneb est un terrain d'action du JNIM lié à Al-Qaïda et que les djihadistes eux aussi fréquentent les marchés où ils viennent se ravitailler. L'armée malienne ne l'ignore pas et cible d'ailleurs régulièrement les foires, ce qui n'est évidemment pas sans risque pour les habitants et pour les marchands. Il y a 2 mois, les soldats maliens et leurs partenaires russes du groupe Wagner avaient déjà exécuté 7 civils à l'Erneb, dont les corps avaient été retrouvés décapités ou mutilés.
L'armée malienne affirme par voie de communiqué de son côté avoir visé un regroupement terroriste. Elle fait état, je cite toujours, de 11 terroristes neutralisés. En Tunisie, la garde nationale annonce qu'elle a secouru la nuit dernière, il y a 24 heures, 612 migrants originaires d'Afrique subsaharienne qui tentaient de rallier l'Europe. 18 dépouilles ont aussi été retrouvées par cette garde nationale. Les rescapés ont été secourus dans plusieurs opérations distinctes dans la région de Sfax, dans le centre-est du pays, après que les embarcations qu'ils avaient empruntées ont chaviré ou sont tombées en panne.
RFI.
Conviction biaisée ou encore jeu trouble à l'est du Congo, la Belgique assume sa sévérité vis-à-vis de Kigali. Une intense séquence diplomatique s'est nouée en l'espace de quelques heures hier, puisque l'on a appris que l'Union européenne adoptait une série de sanctions économiques ciblées contre 9 personnes et une entreprise accusée de participer à la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Dans la foulée, Kigali annonçait la rupture de ses relations diplomatiques avec la Belgique, puisque le pays accuse Bruxelles d'être la motrice principale de ces sanctions. Réponse du ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost. Notre ligne est constante.
La volonté de la Belgique n'a jamais été de stigmatiser ou d'affaiblir le Rwanda, mais plutôt d'éveiller les consciences internationales face aux jeux troubles qu'il joue à l'est du Congo. Nous n'avons qu'une seule boussole à l'est du continent européen comme à l'est du Congo, c'est de dénoncer tous les actes de violation de la souveraineté et de l'intégrité du territoire d'État souverain. La RDC n'est pas exempte d'efforts à réaliser en matière de bonne gouvernance, mais ça ne peut de toute manière pas servir de prétexte à un État voisin pour décider en sous-main d'aller porter atteinte à son intégrité et d'aller commettre des exactions problématiques sur le territoire d'autrui. La manière dont le Rwanda se comporte est juste le reflet de sa volonté de ne pas s'inscrire dans un schéma de dialogue. Visiblement, le Rwanda a choisi de s'enfermer dans ses propres convictions biaisées en omettant de voir qu'au-delà de Bruxelles, c'est toute la communauté internationale et aujourd'hui l'Europe qui décide de prendre des sanctions vis-à-vis de son attitude.
Maxime Prévost, chef de la diplomatie belge au micro RFI de Pierre Benazel à Belgique, qui convoque aussi le chargé d'affaires rwandais pour lui signifier que les diplomates et leurs familles ont 48 heures pour quitter le pays. Par ailleurs, et toujours sur ce conflit dans l'est de la RDC, la FCM23, groupe soutenu par le Rwanda, ne participera finalement pas aujourd'hui aux discussions de Luanda. La partie congolaise était pourtant prête à ses pourparlers directs avec le groupe armé, ce qu'elle s'était toujours refusé à faire jusque-là. Nous sommes en direct avec Paulina Zidi, correspondante à Kinshasa, dans notre prochain journal dans 20 minutes. Les familles des victimes de Nzéré Koré ne perdent pas l'espoir d'être entendues. En Guinée, plus de 3 mois après la bousculade mortelle dans un stade de foot, en marge d'un tournoi à la gloire de Mamadi Doumbouya, une salve de nouvelles plaintes ont été déposées en justice. 56 morts, dit toujours le gouvernement de transition, au moins 140 selon des ONG locales, qui redoutent aussi des recels de cadavres. Les parties civiles déplorent également le flou total qui entoure l'enquête que la transition affirme avoir diligentée à l'époque du drame. Maître Paul Lazare est l'un des avocats des victimes.
Nous constatons l'immixtion carrément de l'exécutif dans le judiciaire. Une enquête a été menée sous l'égide du gouvernement. Mais une enquête judiciaire, elle se gère pas dans les quatre murs. Elle se gère sur le terrain. Mais cette enquête, on ne sait pas sur quel terrain elle a été menée. Aucune victime n'a été reçue. Aucun témoin n'a été entendu. Donc on ne sait pas qui a été reçu par les enquêteurs. Et on ne connaît même pas le contenu de ce rapport. Lorsqu'une enquête est menée, on publie le rapport et on met à la disposition de tous les acteurs. Mais il n'y a que le premier ministre qu'on a vu à la télévision nationale qui a reçu copie du rapport et qui a refusé d'ailleurs de publier. Nous avons tapé à toutes les portes pour qu'on ait copie de ce rapport. Impossible. Est-ce que le rapport déposé sur la table du PM, on peut qualifier ça de rapport digne de nom? On dira non, c'est pas un rapport. C'est simplement un papier qui a été remis au Premier ministre. Nous avons porté plainte contre les organisateurs de l'événement et ensuite contre les officiels qui étaient sur le terrain, dont les autorités politiques et locales de Nzéré Koré. Ensuite, les autorités administratives, dont ministérielles. Et nous estimons que ces gens seront mis à la disposition de la justice pour que ces victimes et parents des victimes qui continuent à pleurer ne soient pas oubliés vu la gravité des faits pour lesquels ils ont été victimes.
Maître Paul Lazare avec notre correspondant Mouktarba. 8 700 000 électeurs, dont quasi 770 000 nouveaux. La commission électorale en Côte d'Ivoire publie une première ébauche de la liste électorale. Le document a été formellement remis hier aux partis politiques. Les citoyens peuvent aussi le consulter et éventuellement déposer des recours. Plusieurs partis d'opposition faisant d'ailleurs déjà part de leur scepticisme, Binta Diagne.
D'après les données de la commission électorale indépendante, il y a à ce jour 8,7 millions d'électeurs sur la liste provisoire, dont près de 769 000 nouveaux inscrits. Cette liste étant désormais affichée dans les commissions électorales locales, les citoyens peuvent la consulter et à partir de samedi, déposer des recours en cas d'irrégularité. Ibrahim Koulibaly-Cuibière, le président de la CEI.
Faites confiance à la commission électorale indépendante. Si vous considérez que ce que nous avons fait n'est pas régulier, il faut recourir aux voies de droit. La violence n'a pas sa place. Les injures n'ont pas leur place. Il faut tout simplement recourir aux voies de droit.
La CEI a remis une copie de la liste provisoire des électeurs à chaque parti politique. Parmi eux, le PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, fait les comptes et note que l'objectif d'enrôler 4 millions d'électeurs supplémentaires n'est pas atteint. Kazadia, représentant du PPACI à la CEI.
Elle a exprimé dans sa démonstration qu'il y a plus de 12 500 qui devaient être sur la liste. Et aujourd'hui, nous avons 8 millions. Les gens veulent s'inscrire, c'est eux qui refusent d'ouvrir. Donc ça amène à réfléchir, pourquoi est-ce que la CEI refuse?
La commission électorale indépendante entend publier la liste définitive des électeurs vers le 20 juin. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Et j'ajoute que ni l'ancien président Laurent Gbagbo, ni le leader du COGEP Charles Blégoudé ne figurent sur cette liste provisoire. Ils sont inéligibles après des condamnations judiciaires prononcées par la justice ivoirienne.
Merci Edouard Dupénoit.